France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Nos héros, ce matin, ne sont pas dans le film. C'est pourtant grâce à elles et eux qu'une séance de cinéma peut devenir inoubliable. Les exploitants en haut de notre affiche. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous et à toutes.
Ils partîment 5 en 55, 70 ans plus tard. Ils sont 1250 adhérents à l'AFCAE, l'Association française des cinémas arts et essais. Le but, recommander et soutenir des films issus de la diversité de la production mondiale et d'animer des salles partout sur le territoire. Nous en avons choisi 4 spécimens ce matin. Passeur de films. Bonjour William Benedetto.
Bonjour.
Directeur de l'Alhambra à Marseille, 232 fauteuils et beaucoup de passion. Elle, c'est une histoire de famille, de transmission et beaucoup de souvenirs, petite fille. Bonjour Charline Tabarot.
Bonjour.
À la tête avec Flore Tournoy des caméos à Nancy. Lui est capable de vous montrer le Titanic en 3D dans une petite salle des fêtes. Bonjour William Robin.
Bonjour.
Le cinéma itinérant dans la Nièvre, plus 5 salles fixes. Plus près de nous à Ivry-sur-Seine, vous dirigez les 2 salles du Luxy. Bonjour Peggy Vallet.
Bonjour.
Un petit tour de France avec vous 4 à l'occasion des 70 ans de l'AFCA. Et enfin les sorties de ce mercredi de La Condition à Résurrection. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Je vais continuer à lutter en faveur du cinéma, car actuellement, en tant que réalisateur, nous devons lutter pour que le cinéma reste vivant. Nous faisons des films, nous devons faire des films pour qu'ils sortent en salle. Il faut que le monde se rappelle que de voir un film sur son téléphone portable ou à la maison, eh bien, ce n'est pas la façon de voir des films. Même si certaines sociétés de haute technologie aimeraient bien qu'il en soit ainsi. Voir un film dans une salle est différent. On partage la tristesse, la peur, le rire et on partage quelque chose avec nos amis ou avec des inconnus. C'est sacré. Donc je pense que l'avenir du cinéma, c'est là où il a commencé, à savoir dans une salle de cinéma.
Mais oui, qui mieux qu'une palme d'or pour défendre le grand écran Sean Baker avec Anora. Votre point commun à tous les 4 exploitants à l'AFCAE, c'est un label de qualité attribué par un collectif de 50 professionnels pour une diversité des œuvres et des regards. Un exploitant de cinéma, c'est pas un commerçant comme un autre. Les films sont des produits, certes, les spectateurs des clients. Mais est-ce que c'est pas l'engagement, la passion qui fait la différence, William Benedetto ?
Si, sûrement, parce qu'effectivement, c'est un métier qui nécessite d'y aller à fond. C'est plus que programmer, c'est plus que gérer une équipe, c'est plus que faire en sorte que tout fonctionne bien. Ça nécessite de trouver des films sur lesquels on a envie d'y aller à fond, parce qu'on est assez d'accord avec ce que dit Sean Baker. C'est l'expérience de la salle peut potentiellement être réellement puissante. Enfin, je crois qu'on a tous vécu et des souvenirs qui sont fondateurs par rapport à ça. Donc moi, mon travail, je considère qu'il est effectivement d'être un passeur, pour utiliser une image footballistique, d'être potentiellement un passeur décisif, c'est-à-dire de faire le pari qu'un film peut changer la vie de quelqu'un.
Oui, c'est vrai.
Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses et qu'on mène ce travail. Et à partir de là, c'est tout mettre en œuvre pour qu'on fasse les choses du mieux possible, qu'on trouve des partenaires aussi, parce que le travail des salles à réessayer ne se fait pas tout seul. Il se fait beaucoup avec des enseignants, avec des associations.
Quel film a changé votre vie ?
Moi, il y en a plusieurs, mais celui qui a, je pense, été le plus décisif, c'était 37-2 le matin, oui. Puisque j'avais 16 ans et que ça reste un souvenir hyper fort. Mais il y en a d'autres, comme Voyage au bout de l'enfer. Et voilà, liste. En fait, quand au fur et à mesure du fait qu'on grandit, on a des films qui nous marquent plus ou moins en fonction de nos âges respectifs.
Vous, Charline Tabarot, vous êtes la troisième génération de l'exploitation.
Oui.
Ça date de vos grands-parents. Qui avaient quelle salle ?
Ma grand-mère était exploitante à Saint-Dié dans les Vosges et mon grand-père était distributeur de films il y a fort longtemps.
Ouais, et vos parents ?
Et mon père a repris l'exploitation à Saint-Dié et ensuite sur plusieurs villes dans l'Est, qui sont des villes, on va dire, moyennes, où vraiment le cinéma est... Et bah, au cœur de la ville, et c'est des salles indépendantes sur lesquelles voilà, j'ai grandi en sachant que tous les mercredis, il y avait des films qui sortaient, que tous les lundis matins, on fait la programmation.
Oui. Et, on se bat au téléphone pour obtenir.
On se bat tout à fait au téléphone pour obtenir, restent. Pour faire les séances, etc. Et puis le cinéma, ça prend évidemment un petit peu sur sa vie privée. Enfin, je veux dire, à un moment donné, même le jour de Noël, il y a des séances, quel que soit. Enfin, c'est ça aussi. Mais moi, j'ai tellement grandi avec cette idée que c'était génial, une salle de cinéma, à la fois parce qu'il y a des spectateurs, parce qu'on, quand l'écran, d'un coup, la lumière s'éteint et que ça commence et que juste on sait qu'ils vont passer un bon moment, c'est fantastique.
Il y avait un dancing sur la salle de cinéma ?
Il y avait tout à fait un dancing à l'époque de ma grand-mère et une discothèque à l'époque de mon grand-père.
Et c'est là où ils se sont rencontrés ?
Mon grand-père et ma grand-mère, oui, exactement. Ah parce bon qu'à l'époque, les distributeurs se déplaçaient pour venir présenter les films. Je parle vraiment d'après-guerre.
Oui.
Et donc, il était venu présenter un film. Voilà. Et ils ont fini par aller prendre un verre, tout simplement.
Vous, William Robin, vous avez grandi à la campagne.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas de salle.
Et non, bah dans un village de 500 habitants, effectivement.
Comment on découvre le cinéma quand on est dans un village de 500 habitants ?
Bien, on le découvre en allant au cinéma. Enfin, mes parents m'emmenaient au cinéma, on va dire, une fois par mois, ce qui est pas mal pour des gens qui habitent à 25-30 minutes d'une salle de cinéma.
Oui.
Je me rends compte maintenant que c'est beaucoup, parce que sur ce public-là, on n'a pas forcément, autant de régularité. Donc il y avait quand même un goût pour la salle, un vrai goût pour la salle. Donc,
c'était un risque financier ? C'était cher pour eux d'aller au cinéma avec les enfants ?
Je ne sais pas si c'était spécialement cher, mais c'était un choix, en tout cas, ouais, parmi d'autres sorties qui auraient pu être possibles. Moi, j'avais des amis, ils sortaient avec leurs parents pour faire d'autres choses que le cinéma.
Oui. Ouais.
Ils pouvaient aller, je ne sais pas, de la chasse ou des choses très différentes, quoi. Le sport, et nous, c'était le cinéma qui était pas mal mis en avant. Voilà, et puis donc ça a structuré mon engagement pour aller travailler en ruralité. Ça a été un choix du départ d'apporter le cinéma dans le milieu rural, quoi.
Vous, Peggy Vallet, vous venez aussi d'un village sans cinéma.
Tout à fait.
Et c'est grâce à un vidéoclub que vous avez découvert le cinéma.
Oui, pour moi, l'arrivée du cinéma dans ma vie, c'est le vidéoclub et c'est aussi le magnétoscope, le fait de pouvoir... avoir accès à des nouveaux films qui arrivent dans le vidéoclub, et puis aussi le fait de pouvoir enregistrer des films et les revoir une fois, deux fois, dix fois, etc. Et puis, un peu comme toi, William, moi, la salle était à 20 km, donc on y allait pour le coup assez peu, voire pas du tout. Et puis, j'ai découvert le cinéma en salle de cinéma quand je suis partie faire des études. Et puis, là, la salle,
donc,
le lieu où on voit le film est devenue vraiment très importante.
Sacré.
En tout cas, vraiment importante. Moi, j'ai un souvenir assez fort des endroits où je vois les films. J'ai une très mauvaise mémoire en général, mais je me souviens de quasiment tous les cinémas où j'ai vu les films.
On se souvient tous de la place à laquelle du cinéma, de la place, alors que pour une série, on se souvient de son lit ou de son canapé, hein.
Ouais.
Je pense que tout ce qu'on ne voit pas au cinéma, on l'oublie, en fait, très souvent.
Oui.
Et d'ailleurs, ça se voit actuellement. Les films qui, finalement, ne sortent pas au cinéma n'ont plus du tout, quelques temps après, la même notoriété qu'un film qui est sorti au cinéma et qu'on a découvert en collectif sur grand écran.
Oui, et puis je crois beaucoup à la dimension rituelle de la sortie au cinéma, de la séance, de ce côté il y a un début, il y a une fin. Nous, les séances qu'on fait avec les écoles, je continue à distribuer des tickets, enfin, à renforcer tout ce côté rituel qui marque un peu les esprits. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie possibilité de faire vivre quelque chose de marquant. Voilà. On est dans un moment éphémère qui peut marquer les souvenirs. Donc, c'est ce que disait Godard sur le cinéma qui construit plutôt des souvenirs que de l'oubli.
Oui.
Et moi, je crois vraiment le dispositif de la salle reste profondément fort aujourd'hui, encore plus dans ce monde numérisé à outrance.
Et un moment sans portable.
Oui, c'est un moment sans portable.
Pour les enfants, c'est...
Ah oui, mais même pour les grands. Hein.
Le numérique est arrivé dans les années 2000, ce qui a énormément allégé la procédure, celle des bobines de films, comme le raconte Jacques Torrance, ex-exploitant du Brady 39 boulevard de Strasbourg.
Alors le problème, c'est que ces copies, elles traînaient dans des stocks. Alors le vieux, il arrivait avec ses sacs en plastique Monoprix, elles étaient toutes rouillées. Et il y a des projectionnistes qui, effectivement, quand ils démontaient le film, ils démontaient parfois à la volée en direct, c'est-à-dire que le film... il tombait par terre, donc il coupait, Et puis après, il chopait en route le film et il le rembobinait. Donc parfois, il coupait au milieu des scènes. Et il mettait pas forcément le bon. Sur une amorce, on doit mettre quelle bobine c'est, c'est-à-dire la 1, la 2, la 3, la 4. Et là, ils avaient pas mis les bons repères. Donc le film passait dans l'ordre 1, 4, 3, 2, 5. Donc
il y a des
personnages. Alors les scènes en moins, on sait pas. Mais
je sais pas.
Donc les personnages, ils arrivaient, ils étaient morts, ils revenaient, on comprenait rien. Puis bon, notre clientèle, c'était « Oh, il y a un mec, il a un chapeau, après il est revenu. » Alors donc, « Ouais, ok, bah, reviens demain, tu comprendras mieux. » Donc, on passait 2 jours à s'en rendre compte.
Jacques Torrence, qui a aussi écrit un livre formidable qui s'appelle « Le Brady Cinéma des Danish ». Il y a aussi un truc important dans un cinéma, c'est la sortie. Parfois, on est accueilli superbement, le film est génial, et on sort dans un couloir sordide. Vous soignez vos sorties de cinéma ?
Oh ben moi, ils sortent par là où ils sont rentrés, c'est-à-dire un hall qui est très grand, et ils retombent sur la personne qui les a accueillis. Donc, de ce point de vue-là, notre salle permet vraiment d'avoir un petit moment de débrief.
Un sas.
Ben, c'est-à-dire que je crois que nos salles sont aussi une dimension humaine, c'est-à-dire que les spectateurs connaissent au bout d'un moment les personnes qui sont là pour les accueillir, et il y a des relations qui s'établissent, et il y a beaucoup de gens qui effectivement à la sortie des séances aiment bien aller dire 3 mots chez moi c'est Mourad ou Abdoul, et avec qui ils échangent comme ça un petit débrief rapide.
Vous aimez bien parler avec les spectateurs après, Peggy Vallet?
Oui, nous on aime parler avant, on aime parler après, on parle pas pendant par contre. Oui, non, c'est très important le lien avec les spectatrices pour nous. En effet, on est là aussi pour. On est un service public, nous. On est aussi là pour le lien avec les personnes qui ont envie de parler. Voilà, on est là aussi pour échanger.
C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes un service public, ça veut dire quoi ?
Alors, le Lucie est un cinéma municipal.
Voilà.
Et à titre personnel, je travaille pour des cinémas municipaux depuis 20 ans. Je suis fonctionnaire. Donc, on est, pour aussi revenir sur la question de. On n'est pas un produit comme un autre. Nous, on est un service culturel. On est un service de la mairie.
Charline Tabarot, comment on connaît son public ? Comment on le capte ?
On peut apprendre tous les jours, je pense, à connaître son public. Ça vient aussi parce que on parlait qu'on aime parler en effet avec nos spectateurs et nos spectatrices. Moi, je sais que je m'appuie énormément sur mon équipe. Enfin, je veux dire, je suis loin de travailler seule. Et pour qu'il y ait des gens de 9h du matin à minuit, c'est aussi grâce aux gens qui sont en caisse, aux gens qui sont encore en cabine de projection, aux gens qui vont passer les micros, etc. Ça, c'est quand même très important. Et notre public, c'est vraiment au fur et à mesure, c'est ce qu'on programme, c'est aussi vers quoi on va aller les chercher. Je veux dire, tout n'est pas naturel. Et la salle RSC, notamment, c'est de dire au public, en fait, quand vous allez au cinéma, quel que soit, c'est un petit risque, mais ça sera toujours un risque gagnant. Même si vous n'allez pas aimer, même si vous allez être déçu, bah, vous en parlerez, etc. Mais c'est faire découvrir une multitude de choses, du ciné-débat, en passant par, en effet, les séances jeunes publics, en passant par du documentaire, en passant par du court-métrage. C'est une multitude de choses qui fait qu'on construit notre public et on en apprend tous les jours encore.
Vous avez eu des réactions un peu fortes, par moment, sur des films que les gens n'aimaient pas et vous opinez du chef Peggy.
Oui, moi ce qui me fait rire, c'est qu'on a des spectateurs et des spectatrices qui nous en veulent en fait quand ils n'ont pas aimé le film, mais en fait pour moi c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire qu'ils se sentent investis, ils sentent que c'est leur lieu aussi. Mais oui, il y a parfois des gens qui sortent et qui nous reprochent comme si on avait fait le film de ne pas avoir aimé le film.
C'est important d'avoir des avant-premières, que des stars ou des acteurs descendent chez vous ou pas ?
Oui.
Oui.
Alors déjà, je pense que c'est important parce que malgré tout, le cinéma a un côté très parisien parce que ça se passe essentiellement à Paris. Donc se déplacer, c'est déjà super. En soi, ça fait vivre le film. Et souvent, une équipe qui s'est déplacée, malgré tout, ça a une incidence. C'est-à-dire, on commence la promotion, il y aura de la presse en local, on aura travaillé le film en amont. Donc au moment de la sortie... On va dire que majoritairement, ça va toucher un petit peu plus de gens.
Vous sentez un bouche à oreille à ce moment-là qui se crée ?
Sur les films, en tout cas, où on a reçu les équipes, c'est l'espoir.
Ouais,
tout dépend des sorties, en effet, ouais. Mais majoritairement, oui.
Est-ce qu'ils se tiennent bien, vos publics, ou pas ?
Oui.
Je dis ça parce qu'on va vous faire écouter quelque chose après, mais...
Non, très sincèrement, oui. C'est plutôt un public qui vient là, pas par hasard, c'est une démarche, ils ont fait un choix. Moi, chez moi, c'est un peu leur
salon. Ils viennent pas devant en disant... tiens, quel film je vais choisir. Ils savent quel film ils vont voir en y allant, parce que c'est pas forcément le...
Mais comme quand on est en mono-écran,
oui.
Forcément.
Oui, voilà, déjà.
Parce qu'on n'a pas d'autres possibilités que le film qui est là. Mais oui, ce sont des publics, moi je considère que ce sont des publics qui sont très engagés dans leur démarche. Pour eux, c'est un peu leur salon. Hein. Quand ils viennent à l'Alhambra, c'est une extension de leur maison, c'est à eux. Ils s'approprient le lieu, ça fait partie de leur vie, vraiment. Donc c'est effectivement ce que disait Charline, c'est-à-dire que de temps en temps, ils peuvent être déçus, mais c'est plutôt, mais qu'est-ce qui lui a appris à William de passer ce film-là ? Et puis voilà, on en parle, et puis c'est pas plus grave que ça. Enfin voilà, ça fait partie d'un tout, en fait. Je crois que c'est ça l'idée, c'est que le travail de la RSC, c'est aussi de défendre la diversité des films et de faire en sorte que ces publics-là voient un maximum de cette diversité, et qu'après, c'est l'idée que le goût, ben, il évolue, il grandit en fonction des films qu'on voit. On préfère celui-là, on aime moins celui-là, et puis après, celui qu'on n'a pas aimé, peut-être que 15 jours après, on va se dire, bah tiens, quand même, il me reste des plans. Des... Voilà. C'est travailler toute la richesse du cinéma de façon un peu complexe, quoi. Et pas juste j'aime pas, je crois.
Pas de perturbation donc, dans les salles, et comme tous ceux qui énervent un certain Marc Tourneboeuf.
J'aurais aimé te dire à toi au cinéma qui envoie des textos. C'est qui ? Comment il va ? Et si on lui disait d'aller se faire foutre ? Ça nous ferait du bien, ça ! Pas vrai, les gars ? En outre, on paye pas 15 euros pour ton petit écran, mais pour voir le plus gros qui se trouve au devant. Te dire à toi qui sort pour aller au WC. On peut mettre sur pause aussi, si vous voulez. Aller manger un truc, boire un coup, voir des filles. Les spectateurs, très chers, s'adaptent à vos envies. Non, monsieur ! Si le film joue, on ne sort plus ! Et si l'on doit pisser ?
On se pisse dessus !
Ne peut-on pas, ici, de ce lieu où nous sommes, s'abandonner à l'art pour échapper à l'homme ? Dire aussi... Les pop-corns du dessus sont pas bons ? Pourquoi vas-tu toujours chercher les plus profonds ? Tu as perdu un truc ou quoi ? Pourquoi tu les mélanges ? Tu tires le loto ? Le pop-corn te démange ? Si tu refais un bruit qui trouble mon repos, je t'administrerai les pop-corns en suppos.
À propos de pop-corn et de confiserie, vous avez des confiseries dans vos cinémas respectifs ?
Ouais, un petit peu. Oui. Moi, je travaille. Alors là, ce qu'on a entendu, c'est marrant parce que finalement, l'histoire du cinéma ne s'écrit pas que sur des cinémas d'art très silencieux où tout le monde est très tranquille. Mais oui. L'histoire du cinéma, c'est des choses qui se traversent. Une histoire foraine, une histoire plus effectivement héritée du théâtre, mais oui. Qui arrive finalement plus tard dans l'histoire du cinéma. Et puis bon, voilà, le mouvement art-essai qu'on représente ici, l'AFCAE, est mélangé de salles qui sont inspirés de tous ces mouvements-là qui vont façonner le cinéma. Moi, je travaille dans un milieu rural, je suis parfois en monopole sur des communes rurales, donc je passe... Alors moi, j'ai un engagement personnel pour le film art et essai, donc je passe beaucoup de films art et essai, mais je passe aussi des films généralistes. Et puis, on a effectivement du pop-corn dans certaines de nos salles, pas toutes. Et puis, alors j'ai pas de confiserie sur le cinéma itinérant, mais sur le cinéma itinérant, juste pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, là on est à chaque fois avec le matériel et le public à la projection. Donc on revoit à chaque fois le film avec le public, tout le temps. Donc en termes de proximité et de discussion, c'est dès que la lumière s'éteint, on vient nous voir en 10 secondes et on est dans la salle avec eux. Donc c'est encore un autre phénomène.
Je parlais de la confiserie parce que c'est pas du tout superficiel comme sujet, puisque les multiplexes font l'essentiel de leurs recettes là-dessus, non, Peggy ?
Oui, pareil. Alors nous, on vend pas de confiserie.
Ouais.
C'est un choix de politique culturelle aussi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que en fait, alors il y a la question du bruit. On a entendu tout à l'heure dans l'extrait les pratiques qui peuvent être gênantes. Et en effet, nous, dans la ville d'Ivry, il y a un multiplex qui fait ce travail-là. qui est un autre travail. Hein,
ouais.
Voilà,
oui, bien sûr.
Et il y a le cinéma municipal. On est sur des positionnements assez différents,
ouais.
Avec un partage de territoire assez différent. Il y a en effet d'un côté un cinéma plus grand public avec des blockbusters quasiment uniquement.
Ouais.
Et puis le travail autour du cinéma RSC avec notre salle RSC.
Mais les spectateurs vous le reprochent ? Non. De cette absence de confiserie, de popcorn, alors, tout ça, vous avez les
parfois
spectateurs.
Parfois, on a des questions. Ouais. Je ne sais pas si c'est sous forme de reproche. On a pas mal quand on a les publics adolescents qui viennent. Alors, parfois en groupe, qui sont assez déçus qu'il n'y ait pas de popcorn, évidemment. Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est aussi dans leur pratique.
Mais c'est vrai qu'il y a un snobisme quand même par rapport à ça, William Robin. Que le public arrêtait, est un public silencieux. C'est un peu comme un culte, justement. On est un peu dans.
Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est du snobisme. Il y a aussi quand même des films où on n'a quand même pas envie qu'il y ait du bruit qui nous perturbe, je crois, mais en fait des fois on oublie certaines choses, par exemple Tati qui disait que pour regarder correctement Playtime il fallait manger, je sais pas quoi, une choucroute ou quelque chose comme ça en même temps. Bon, Bon, je crois que tout est possible. Moi, en fait, je vois tout de suite, hein, les films à réessais, les gens prennent pas de pop-corn, en fait. Bon, moi, j'ai pu prendre sur une seule de mes salles, hein, sur les cinq, et j'ai pas de pop-corn. Et puis moi, c'est pas du tout, moi, ça me rapporte un petit peu d'argent, mais c'est pas du tout, je suis pas vendeur de confiserie, hein. C'est bien, tout l'enjeu, c'est sur les films. Hein.
Mais William Benedetto, vous dites, les gens sont comme dans chez eux, c'est une prolongation de chez eux. Mais parfois, les gens parlent comme s'ils étaient dans leur salon aussi, hein, dans les salles de cinéma.
Dans les salles?
Oui.
Oui, ça peut arriver. Et puis le portable est un perturbateur qui touche tous les publics aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut rappeler en permanence que c'est gênant pour les autres. Mais nous, on préfère travailler. Nous, on fait pas de pop-corn, mais on travaille sur des formes de restauration avant les projections. Donner la possibilité, parce que dans le secteur où je suis, le soir, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités de se restaurer. Donc je crois qu'on fait chacun un peu ce qui nous semble être le plus adapté. Moi, si je fais pas de pop-corn, c'est parce qu'effectivement, je pense que ça gêne les séances. Et puis deux, après, il faut gérer le nettoyage, quand même, c'est pratico-pratique.
Oui, c'est vrai.
Ça, voilà, et moi, j'ai plus envie d'avoir moins de temps pour passer plus de films que passer du temps à nettoyer les salles.
On va faire un petit focus, donc un grand focus même sur le cinéma itinérant, parce qu'il y a encore l'équivalent de zone blanche de cinéma.
Oui, alors en France, grâce au maillage, grâce à l'histoire de la RSA justement, et grâce à notre système français, la TSA, les billets, peut-être qu'on en reviendra dessus tout à l'heure, grâce à tout ça, il y a quand même peu de zones blanches. Normalement, personne n'est à plus de 30 minutes d'au moins un point de projection itinérante.
Oui.
C'est sans équivalent dans le monde. Hein,
Il n'y a aucun autre équivalent dans le monde. Pour rappel, nous, on a 1200, je crois même presque maintenant 1400 salles classées à RSA en France. Le pays qui arrive juste derrière, c'est l'Allemagne, avec 900, quelque chose comme ça. Donc on est devant, assez largement, quoi. Bon, sur le cinéma itinérant, nous, justement, on essaie d'aller pallier à ces zones blanches, loin des dynamiques culturelles, loin des zones urbaines. Le cinéma itinérant, c'est une sortie qui est un peu plus qu'une sortie cinéma. Et on le voit, par exemple, moi, sur mes entrées, là où dans les salles, j'observe une baisse, un peu comme un certain nombre de collègues, je n'observe pas de baisse sur le cinéma itinérant. Et pour cette raison, c'est parce que c'est une sortie de nature assez différente. Mmh. C'est vraiment une sortie de village, on passe une fois par mois ou deux fois par mois. Et donc c'est vraiment très différent.
C'est l'événement, enfin, ça a un côté événementiel.
Absolument, c'est un côté événementiel à chaque projection.
Ça.
On va écouter ce petit reportage qui avait été réalisé en 82 par FR3.
C'est à la Gaude, au pied du Bav de Saint-Janet, que la petite caravane motorisée a fait halte hier soir. Pour porter la bonne parole cinématographique, ils sont deux à investir chaque jour le village. L'un chargé de la technique, tandis que son équipière assume la propagande et l'intendance.
Ce pari correspond à un désir de redonner aux gens le goût du grand écran. Parce que, bon, c'est la facilité de rester chez soi, de regarder un film. Et finalement, le cadre étroit de la télévision, c'est l'étrange lucarne, fait qu'il y a, comme une espèce de dispersion du cinéma. Donc ce que nous avons souhaité, et moi en particulier, c'est se donner des moyens techniques de véritables salles de cinéma et d'arriver à fabriquer un lieu cinématographique là où il n'y en a pas. Ils s'installent et ils ont même des réflexes de salles de cinéma. Ils sont pourtant chez eux ici en plein air et ils s'assoient.
Ces spectateurs, ils sont quelquefois 400. Hier, ils étaient 70 à avoir payé en moyenne 12 francs chacun. Quand on sait que la société de distribution du film exige une garantie minimum de 1000 francs par projection, on mesure le mérite des organisateurs.
Et on mesure le mérite de vous maintenant, d'ailleurs toujours en 2025.
Alors heureusement, les choses ont un peu changé en distribution. Maintenant, on est en partage de recettes comme partout. Oui. Mais effectivement...
C'est quel volume d'entrée, par exemple?
Mon cinéma itinérant fait à peu près 10 000 entrées par an.
Pas mal.
C'est pas mal, avec une moyenne d'à peu près 20-25 spectateurs par séance. Ouais. Alors après, on est dans la Nièvre, on est sur un territoire de 190 000 habitants. C'est un grand département avec peu d'habitants, mais c'est très important que nous, on vienne monter et démonter chaque jour une petite salle de cinéma dans des salles des fêtes, des théâtres, des lieux de cette typologie. Et l'été, parce que là, on entend parler de plein air, parce que souvent, on confond cinéma itinérant et cinéma plein air.
Oui, oui.
En fait, à l'année, nous, on est dans des salles en dur, on est dans des salles des fêtes, on réinvestit des lieux, mais l'été, on fait effectivement du plein air. Là, c'est très événementiel et ça demande un peu plus de travail.
Je disais, vous pouvez montrer le Titanic en 3D dans une salle des fêtes.
Alors oui, nous nous sommes équipés, nous avons fait le choix à Sony Quanon de faire des projections itinérantes avec une grande qualité de projection. techniques, technologiques. On a des projecteurs de salles de cinéma, parce que vous savez, il y a eu des projecteurs qui ont été pensés pour le cinéma itinérant. Nous, on a petit à petit changé pour vraiment avoir des projecteurs typologie salle avec des élévateurs, tout un système qui font qu'on peut les transporter parce qu'ils sont très lourds. Et puis, on a effectivement formé nos projectionnistes à pouvoir installer du son en 2.1, 5.1, et on est équipé pour faire de la 3D, du HFR, comme dans une salle. C'est-à-dire qu'on veut que au-delà de la salle des fêtes, des chaises en plastique parfois, ça, c'est pas nous qui le maîtrisons, ça, ce sont les villes qui nous accueillent ou les villages. Nous, on essaye de se dire qu'au moins sur la partie projection, on se rapproche au maximum de la salle de cinéma.
Comment vous choisissez les films par rapport à eux ? Parce que ce sont des gens parfois qui vont très rarement au cinéma.
Oui, on fait un travail collégial avec des bénévoles dans chacune des villes. On fait 6 réunions par trimestre. On a une programmation trimestrielle. Alors, on travaille en décalé, hein, puisqu'on travaille sur 3 mois à l'avance. Donc, il faut pouvoir être sûr que le distributeur ne va pas nous dire non, finalement, t'as pas le film. Donc, on prend les films très tard, comme ça, on est sûr. Enfin, très tard. De moins en moins tard, ceci étant, grâce au numérique, entre autres, et l'évolution de certaines choses. Et puis, on travaille collégialement. Nous, on fait une présélection de films, des films grand public, des films art essai, des films jeune public. Et puis, dedans, les mairies piochent, en fait. Et donc, dans notre présélection, on met une certaine exigence. Et, par exemple, en ce moment, on diffuse, par exemple, Nouvelle Vague de Richard Linklater.
Bravo !
C'était un pari. C'était un pari, mais ça marche plutôt très bien.
Ouais.
À proportion égale de mes salles, ça marche mieux que ce que ça a été dans mes salles. Et j'en suis très content de faire découvrir ce film à des gens qui ne seraient probablement pas allés le voir d'eux-mêmes.
On va parler de la concurrence maintenant, parce que quand même dans toutes vos salles, vous êtes en ville, il y a des multiplex à côté. Comment ça se passe ? Est-ce que vous vous bagarrez parfois sur des films ? Est-ce que des films qui seront qu'en multiplex et jamais chez vous, et l'inverse ?
Je crois qu'on est dans une situation un petit peu plus complexe que ça aujourd'hui, c'est-à-dire que les multiplex ont aussi besoin de certains films plus à réessayer, on va dire, qu'avant.
Là,
c'est ce qu'on remarque. Oui, à Marseille, c'est un peu le cas.
Besoin, c'est-à-dire
Ils pensent qu'il y a des publics qui fréquentent leur lieu, qui peuvent être intéressés par la voix de In Rajab, par Petite Cuisine de Mehdi, dont vous allez parler. Donc, les choses sont dans les deux sens. Moi, j'essaie de garder aussi un côté un peu généraliste dans ma programmation, mais le fait est qu'aujourd'hui, ces films-là, ça devient de plus en plus compliqué de les avoir suffisamment à temps, j'ai envie de dire, avant ce qu'on appelle la S5, la cinquième semaine, et que les choses vont tellement vite aujourd'hui que les films en S5, en fait, à certains endroits, ça devient compliqué. Donc, pour moi, c'est pas plus dur qu'avant. Moi, j'essaie de réfléchir mon travail comme étant complémentaire de tout le reste. Je pense qu'à Marseille, qui est une grande ville qui, certes, a fait beaucoup de progrès sur la diffusion du cinéma, mais on a encore beaucoup de marge. C'est-à-dire qu'on sera, le jour où on sera de trop, c'est qu'on sera arrivé à un niveau suffisant. Mais pour le moment, en tout cas, je considère que, voilà, moi, j'essaie de me positionner en complémentarité, mais pas en opposition. Après, ben, ça dépend des films, ça dépend des distributeurs, c'est l'objet de grosses discussions, de réunions très professionnelles en ce moment entre les distributeurs, donc c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, moi, personnellement, oui, ça fait partie des choses compliquées du travail, de négocier les films, le nombre de séances, tout ça, sans rentrer dans la cuisine interne. Voilà.
Mais c'est intéressant, parce que la cuisine interne, ça se passe le lundi, hein, Charline.
Oui.
C'est toujours au téléphone. C'est un peu...
C'est vrai, dans notre profession, on fait beaucoup de choses par téléphone.
Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut rester, il faut s'accrocher, il faut trouver les arguments pour garder des films aussi.
Bah, déjà, je pense, parce que je me rends pas bien compte, mais déjà, souvent les gens ont l'impression qu'un film, en fait, finalement, on l'a de manière facile et que... en fait, il faut quand même se dire qu'il y a des sorties nationales, il y a des ayants droit et que les plans de sortie sont pas non plus... On sert pas forcément tout le monde. Moi, sur une grande ville, j'ai plutôt tendance à avoir évidemment accès en sortie nationale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur le territoire. Les films souvent peuvent arriver en deuxième, troisième semaine, ça c'est un peu hérité notamment de l'époque 35 mm. En fait, ça c'est un travail, c'est de voir les films, mais nous, notamment dans nos salles, l'important c'est d'éditorialiser constamment, c'est-à-dire de savoir au moins 5 semaines à l'avance quel film on va passer, quel est notre équilibre aussi entre certains plus gros films dont on a véritablement besoin, qu'on va partager souvent avec la concurrence sur la ville. Nous, sur des villes...
Par exemple, Avatar qui va sortir.
Avatar va pas sortir dans les salles ARS de grandes villes.
Non.
Parce que, par contre, ça sortira dans des salles ARS dans des plus petites villes, parce qu'il y a quand même énormément de salles ARS qui font des films généralistes, et c'est normal.
Oui. Mais vous en avez besoin d'Avatar, pourtant.
Le marché a besoin d'Avatar, et j'espère que ça fonctionnera.
Oui.
Nous, l'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'Avatar et d'aller sur d'autres choses.
Oui. Et vous, Peggy Vallet ?
Alors, comme je disais, nous, on a un projet qui est vraiment très à réessai, parce que 85% des films qu'on passe au Luxi sont classés à réessai. Il y a un deuxième cinéma, donc sur la ville d'Ivry, qui est vraiment très grand public, qui a assez peu de films à réessai, voire pas du tout. Donc le partage entre eux et nous se fait assez naturellement. Après, il y a quelques films qui sont un petit peu entre deux, que les distributeurs qui sont c'est des films à réessai, que les distributeurs... je pense par exemple à La Petite Dernière d'Aversi,
oui.
Qui peut être un peu plus passé en multiplex et que nous on a un petit peu attendu pour l'avoir, mais c'est pas un problème non plus en fait. On est aussi sur le soutien à la création, donc si on a un film un peu plus tard, on est aussi content et contente de pouvoir donner de la place à d'autres films qui en ont moins ailleurs. Voilà, donc pour nous, le partage est fait plutôt comme ça.
Ça se garde combien de temps un film ? Parce qu'il faut que ça tourne aussi. Quoi, William ?
Tout se négocie. Hein.
Ah oui ?
Nous, le type de cinéma dans lequel je suis, on fait des programmes sur une plus longue période. Donc on n'est pas tous les lundis sur la prog. Donc on fait des choix d'afficher les films. Le minimum, c'est 15 jours. Chez nous, ça peut aller jusqu'à 4 semaines. Quand on ne peut pas faire plus, on fait une semaine, mais c'est un peu la mort dans l'âme. Mais bon, c'est pour essayer de faire exister un maximum de propositions, parce que ça fait partie des choses très compliquées en ce moment pour nous. C'est-à-dire que face à l'offre surabondante de films, il faut faire des choix. Et ces choix, c'est toujours un peu pas simple. Mais en général, la durée moyenne, c'est 15 jours.
On va aussi parler de l'éducation à l'image. Ça veut dire quoi, l'éducation à l'image, l'autre William ? C'est-à-dire, c'est proposer aux enfants et aux adolescents de regarder autrement un film ?
Oui, mais après l'éducation à l'image, je pense que ça n'a pas voulu toujours dire la même chose, puisque ces principes sont nés à la fin des années 80 avec les dispositifs collège au cinéma, puis après on a eu école, lycéen au cinéma. Donc il s'agissait au départ de faire une éducation au cinéma comme il pouvait y avoir une éducation à la littérature, etc. Donc le parcours est un peu resté d'ailleurs le même aujourd'hui, c'est un film par trimestre dans une même classe qui suit ce parcours-là. Donc l'idée c'était de montrer des films en salle, proposer l'expérience de la salle, parce qu'il faut vous rappeler que les années 80 sont des années très noir hein, pour les salles de cinéma, avec une chute drastique des fréquentations. On est descendu presque à 100 millions d'entrées, donc aujourd'hui on a quand même remonté depuis, même s'il faudra regarder tout ça en détail.
Oui.
L'éducation aux images, c'est l'expérience de la salle, voir un film en salle sur son écran naturel, parce qu'on montre quand même beaucoup de films qui ont été créés à une époque où il n'y avait pas trop d'autres écrans, éventuellement la télévision, mais ils étaient quand même vraiment pensés pour la salle. Mmh. Et donc, si on veut montrer des tableaux à des enfants, ils en au musée, on leur montre pas sur des diapositives a priori. Ouais. Là, le cinéma, c'est pareil. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est effectivement au fil du temps, avec la multiplication des images, des supports. Maintenant, on est dans un monde qui est saturé d'images. Mmh. Donc maintenant, c'est vraiment aussi l'éducation aux images, c'est l'histoire de ces images, comment elles sont fabriquées et comment on peut les lire. Qu'est-ce que ça... Et effectivement, il y a un prolongement qui se fait par les enseignants, qui peut se faire par nous quand on présente le film aux élèves, quand on discute avec eux à la fin. Ça peut être sur le sujet du film, mais ça peut être aussi concrètement sur la mise en scène. Qu'est-ce que ça veut dire tel effet de montage ? Pourquoi est-ce que le cinéaste il a voulu faire ça ? C'est des petites questions qu'on pose et que les enseignantes sont censées s'approprier normalement. Voilà. Moi, je veux juste dire que c'est un enjeu majeur, que là, il y a des annonces qui sont faites récemment pour essayer de redynamiser tout ça et c'est une bonne chose. Mais que, par exemple, la formation des enseignants, ça fait des années que ça pêche et que là, ça commence à devenir extrêmement critique. Et que donc, il faut toujours se réjouir que les élèves viennent en salle, mais il faut absolument qu'on arrive à retrouver justement un niveau de lien avec les élèves sur ces questions.
D'ailleurs, William Benedetto, à Marseille, vous convoyez même des bus pour les faire venir.
Nous, c'est tous les jours, mais c'est dans beaucoup de salles comme
tous
ça.
Tous les jours.
Tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, avec des enfants dans nos salles, 2000 élèves de maternelle, par exemple. Mais je crois que ce qui est important, c'est de défendre le cinéma. La particularité du cinéma, c'est que c'est quand même faire découvrir des films que tous ces enfants n'auraient jamais vus, vraiment, parce que des films de noir et blanc, des films de Chaplin, La Belle et la Bête, voilà, il n'y a pas que ça, mais ça fait aussi partie du programme. Et puis c'est quand même l'idée de dire que le cinéma, c'est pour de faux, quoi. C'est-à-dire ce que nous, le cinéma, c'est tout est fabriqué, tout est construit, c'est un objet complètement façonné, quoi. Et dans le monde des images aujourd'hui, de défendre cette dimension-là, c'est-à-dire d'expliquer et de faire vivre des choses en expliquant que c'est un point de vue, que c'est un travail, que ce sont des choix qui sont posés là comme ça, et donc avec une entrée essentiellement artistique, artistique, et c'est pas défendre l'art pour l'art, c'est se dire qu'on a on a besoin de faire exister tout ça dans les gens. Et je pense qu'une des particularités de l'art et essai, des films qu'on défend, des films qu'on a envie de montrer, c'est qu'ils proposent quand même un regard complexe sur le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des approches simplificatrices, on est plutôt à travers des personnages qui vivent des aventures ou des histoires pas simples. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est plus compliqué que ça. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde où la simplification à outrance est très répandue, le cinéma peut avoir un rôle à jouer.
On me dit derrière la vitre, mais bien sûr qu'il faut, il faut s'arrêter là parce que on a des films, on doit parler d'autres films. Vous restez tous les quatre avec nous et on se retrouve après Philippe Catherine.
Frérot, alors comme ça t'es plus mon frérot, on va quand même pas renouer là-haut. Dans le grand pays blanc,
quand on aura 200 ans,
où on n'est pas sûr de trouver du blanc et de la bœuf pour parler comme avant. Non, rien n'est comme avant, ça change tout le temps. C'est ça qui est effrayant. Non, désolé, je sais que c'est des mots de daron. J'ai l'impression que tu me vois qu'en fraction, alors que je suis ton frérot.
Mais peut-être que c'est fou.
C'est pour la vie qu'on est des frérots. Ça peut pas se qu'éblo sans un mot. Que pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. L'histoire des hommes bégaye.
Il est humain de tuer un homme.
Je sais pas qui a dit ça. Je crois bien que c'est moi, à toi. Frérot, alors comme ça t'es plus mon frérot. C'est comme si on m'avait tiré dans l'eau, même pas en m'appelant. Putain, tu m'appelleras quand tu seras réglo. Par l'oreille tu feras mine de boire de la croûte.
Inter. On aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer par Résurrection, Laurent, du cinéaste chinois Bigan. Le choc esthétique de Cannes, hypnotique, sensoriel, poétique, ce voyage dans le XXe siècle, un hommage au cinéma et ce plan séquence dingue de 40 minutes du crépuscule à l'aube du passage à l'an 2000.
Oui, c'est assurément un objet filmique non identifiable, assurément découvert à la toute fin du dernier festival des Cannes, Oui. Et on était dans un état de sidération pour cette pure déclaration d'amour au cinéma, ses fantômes, ses vampires, ces polars, ou bien encore ces péniches, tendance la talente de Jean Vigo. C'est un immense poème en prose, il commence dans une fumerie d'opium, c'est pas pour rien, il faut donc se laisser griser et droguer par ce voyage qui n'oublie pas cependant, en filigrane, de nous dire que dans le pays d'où il vient, la Chine, on est en train d'étouffer ce qui fait précisément la matière du film, les rêves.
La condition, Jérôme Bonnel, c'est l'histoire de Céleste, une jeune bonne employée chez Victoire et André en 1908. C'est l'histoire de Victoire, de l'épouse, modèle, qui ne sait pas l'être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits, un propos très actuel. La domination masculine, la lutte des classes et sous les costumes d'époque, Laurent, la subversion.
Oui, Jérôme Bonnel, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, il s'était intéressé aux contemporains. Et là, avec ce film, il passe dans un univers à la Maupassant, il faut le dire, mais en faisant émerger effectivement les figures féminines, presque plus que dans ce courant romanesque, avec, il faut y insister, un casting féminin exceptionnel, Louise Chevillotte en tête et Emmanuelle De Vos dans un rôle de muette. Jacques Audiard l'avait rendue sourde. Bonnel la rend muette et ça vaut le coup, ça passerait très bien. Et puis il y a Swan Harlow qui est dans un mâle dominant absolument odieux. Ce propos féminisé tient la route et le film qui parle évidemment d'une condition romanesque mais aussi d'une condition sociale est efficace.
Animal Totem, c'est le premier film en solo de Benoît Delépine. Une abeille ouvrait le film Bugonia du grec Lanthimos, une autre la referme dans Animal Totem, de façon l'une très rageuse et l'autre plus douce, quoique, de mener un combat écologiste, et Delépine pour cela a choisi le plus doux des acteurs, Samir Ghesmi. Belle idée, mais méfions-nous de l'eau qui dort. À pied et avait attaché à une valise son héros, donc Darius, sous l'œil de chiens, de rapaces et de poissons rouges, traverse champs, forêts et lotissements de Beauvais à la Défense. Une balade burlesque, poétique, un peu répétitive, c'est vrai, mais qui prouve une fois encore la sensibilité militante du cinéaste qui a choisi plutôt qu'un tract filmé, un conte, une fable sur écran très large.
Oui, alors c'est du Delépine et Kerverne sans Kerverne pour une fois, mais effectivement il y a au centre un acteur qui fait le boulot en quelque sorte de ce road movie avec peut-être un bémol qui est effectivement la succession de ce qu'on peut penser être comme des sketchs. On a envie de dire qu'on aurait aimé un scénario un peu plus construit avec autre chose qu'une succession de scènes. Mais en l'état, c'est une réflexion qui est évidemment intéressante.
Elle entend pas la moto, c'est un documentaire de Dominique Fischbach à la veille d'une célébration familiale. Manon, jeune femme sourde, rejoint ses parents en Haute-Savoie, où l'histoire du clan se redéploie entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans. Un chemin d'épreuve et de résilience, un témoignage bouleversant, mais jamais larmoyant et toujours à bonne distance, Laurent.
Ouais, c'est une immersion totale dans cette famille, avec ses rituels et ses deux langues. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est la langue parlée, la langue des signes. C'est une véritable mise en avant de ce langage des signes. C'est un peu, excusez-moi, l'anti-famille Bélier, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun pathos, mais l'enjeu d'une représentation cinématographique, de la communication dans le silence, à l'image d'un plan-séquence extraordinaire où deux jeunes filles se racontent à travers, effectivement, cette langue des signes.
La petite cuisine de Mehdi, de Amine Adjina. Mehdi joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa, ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu'il s'apprête à racheter avec Léa, mais celle-ci n'en peut plus de ses cachotteries et exige de rencontrer Fatima. Une tendre comédie sur les origines, légère, fraîche, mais qui manque parfois de vraisemblance.
Ouais, cuisine et cinéma, j'aurais aimé adorer, évidemment. C'est ça quand même le problème, c'est qu'à force de rebondissements, de cachotteries artificielles et laborieuses, l'équiproquo s'enchaîne, on n'y croit absolument jamais, et c'est bien dommage que brille pourtant au sein du film l'actrice qu'on aime tant qui est Yamabas, mais on aimerait qu'elle ait un rôle un peu plus conséquent, la cuisine restant absolument un prétexte.
Louise de Nicolas Quetel, suite à un incident, la jeune Marion décide de fuguer du domicile familial. Elle démarre alors une nouvelle vie sous une autre identité, Louise. 15 ans plus tard, Louise retrouve la trace de sa sœur et de sa mère. Petit à petit, elle réapprend à les connaître sans leur dévoiler son identité. Alors qu'elle renoue avec son passé, un dilemme s'impose à elle. Rester Louise ou redevenir Marion, mélo, thriller, drame familial, invraisemblable, maladroit et plein de pathos.
J'approuve ce message et je regrette que Cécile de France soit cantonnée à ses rôles de jeune femme sympa mais dépassée par les événements.
Oui, c'est vrai.
Ça bien faire.
Ouais. À la poursuite du Père Noël, James Hutt. Zoé, 7 ans, on a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé, mais il ne va pas lui offrir. Une comédie familiale sur le harcèlement scolaire, malicieuse et décalée.
Oui, sort de ce corps Jean-Pierre Jeunet quand même, hein, mais bon, enfin voilà, allez, on va passer.
Ou Tim Burton.
Oui, alors bah, là, vous mettez la barre encore plus haut.
Love Me Tender, on en a parlé pas mal déjà, et si on en reparlait, Laurent,
bah, oui.
De Anna Kaznav-Campbell. Adapté librement du livre de Constance Debray.
Oui, c'est cette formule d'adaptation libre qui est très très intéressante parce que du récit extrêmement rugueux, dur, vraiment de Constance Debray, la réalisatrice là en fait un autre propos à travers son interprète principale qui est tout sauf rugueuse et dure, c'est Vicky Cripps. Et justement, c'est une relecture du roman du récit qui ne l'affaiblit absolument pas, bien au contraire, on est totalement terrifié en fait par ce que vit cette femme à qui on retire son enfant de bout en bout et avec une maîtrise des ellipses temporelles formidable.
Et maintenant on en arrive au cadeau.
Ben oui, bien sûr. Alors.
Et on a du temps en fait.
Bon, mais c'est bien, c'est très bien qu'on ait du temps. Voilà. Quatre films que vous pourriez passer dans vos salles, hein, évidemment à réessayer. On a quand même, on est dans la thématique. Pour vous, Peggy Vallée, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Sean Penn, The Pledge. Avec Jack Nicholson.
Ah. Merci beaucoup, je ne l'ai pas vu.
Ah bah, alors, tant mieux. Alors tant mieux, bah, on vous envie beaucoup. C'est un polar absolument mélancolique. C'est un des plus beaux rôles de Nicholson à mes yeux en tous les cas. C'est édité par BQHL. Il y a des bonus à la hauteur, un livret de 28 pages. Vous verrez, c'est un sacré film. Et on le recommande évidemment chaudement à nos auditeurs. Pour vous, William Robin... Est-ce que vous aviez vu Napoléon d'Abel Gance ?
Alors, Napoléon, bien sûr, oui. La restauration, là, la dernière.
Voilà, grande version de 1927 qui dure juste 428 minutes. Je vous laisse compter dans combien ça fait d'heures. C'est édité par Potemkin. Et avec dans cette version, ce qui était extraordinaire, on a eu, nous, la chance de l'avoir en direct, les deux orchestres et le chœur de Radio France qui donnent une encore plus d'ampleur à cette merveille de cinéma qui est à la fois une fresque, un film sur la Corse. Il y a une heure sur la Corse qui est absolument sidérante. Enfin voilà, donc il faut voir et découvrir cette grande version du Napoléon d'Abel Gance qui est un pur chef-d'œuvre.
Absolument.
Et il y a un beau coffret qui sort en parallèle qui est encore plus riche en bonus. Mais celui-là, vous verrez, ça vaut le coup. Je passe maintenant à Peggy Vallée.
Quelle chance vous avez, Peggy.
Peggy, quelle chance.
Charline.
Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est moi, c'est
j'ai
ma faute.
J'avais deux cadeaux.
Mais oui, excusez-moi. Charline, pardon. Le privé, Robert Altman, ça vous dit quelque chose ? Là aussi, c'est chez BQHL, avec l'incroyable Elliot Good, qui, au début du film, essaye de tromper son chat en lui donnant autre chose que sa pâtée habituelle. Mais le chat n'est pas dupe, ça commence très très bien. C'est absolument génial. Il y a des bonus à la hauteur, un livret là aussi de 28 pages. Et puis, pour notre deuxième William, on a pensé qu'un peu de Versailles pour le Marseillais que vous êtes, après tout, pourquoi pas un peu de centralisme ? Bon, voilà. Pardon pour la malice. De Sacha Guitry, évidemment, édition collector sublime, 4K, Blu-ray, c'est chez Rimini Édition, et il y a des suppléments royaux, évidemment, avec notamment des archives INA qui sont sublimes.
Merci.
Merci à tous les quatre. Merci William Benedetto de l'Alhambra à Marseille. Merci Charline, rappelez-moi votre... Charline...
Tabarot, pardon.
À Nancy.
Tout à fait.
Les caméos.
Exactement.
Merci William Robin pour le cinéma itinérant dans la Nièvre et pour vos salle fixe également.
Merci.
Et merci Peggy Vallée pour votre cinéma Le Luxy à Ivry-sur-Seine.
Allez au cinéma.
Un grand merci à David Obadia et merci à notre équipe. Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, Olivier Rioux à la programmation musicale et ce matin aux manettes, Julien Thévenot. Et bon anniversaire à l'AFCAIS.
Bon anniversaire.
On aura tout vu sur France Inter.